Salut, c'est Ziad Malouf de l'atelier des médias. Le 27 octobre 2005, alors qu'ils cherchent à échapper à un contrôle de police, Ziad Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, meurent électrocutés à Clichy-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris.
Flambée de violence cette nuit à Clichy-sous-Bois après la mort de deux jeunes adolescents.
Durant les cinq nuits qui suivent ce drame, la ville de Clichy s'embrase. Puis ce sont des dizaines de villes de banlieue, de quartiers populaires qui se révoltent. Voitures brûlées, cocktails molotov, batailles rangées avec les forces de l'ordre et tout ce qui représente l'État. La violence, la soudaineté de ces émeutes intriguent les médias du monde entier qui découvrent pour beaucoup cette réalité si française, la banlieue.
Travaillé pour le magazine suisse L'Hebdo. On avait vu démarrer ces émeutes. J'étais responsable du service international pour ce magazine.
C'est la voix de Serge Michel que vous entendez. Il travaille aujourd'hui pour le journal Le Monde et plus précisément pour Le Monde Afrique. Serge est suisse et en 2005, sa vie professionnelle allait basculer.
Et dans mon service international, on était deux personnes parce que c'est un magazine de petite taille, comme souvent de l'autre côté de la frontière. Donc on disait, qu'est-ce qu'on fait pour couvrir ça de façon intelligente dans une réunion? Et on s'est dit, au lieu d'envoyer quelqu'un avec son gilet multipoche, vous savez, comme font les reporters parfois, plutôt que de faire un court séjour et revenir faire un papier et après c'est fini, on s'est dit on devrait ouvrir un bureau de correspondant en banlieue. On n'a pas beaucoup de bureaux de correspondants parce que c'était un petit journal, mais on devrait ouvrir un bureau parce que on sentait bien que c'était une affaire plus grave, plus profonde, plus ancienne qu'un événement comme ça épidermique qu'on pouvait expliquer en un papier ou deux. Du coup, je rentre le soir, je parle de ça à ma femme qui me dit « je connais quelqu'un à Bondy ». Je dis « c'est où Bondy ?» Je regarde. Et puis deux jours plus tard, j'arrivais à Bondy.
Bondy est une ville de Seine-Saint-Denis à quelques centaines de mètres de Clichy-sous-Bois. C'est une des agglomérations où la révolte, l'émeute, les émeutes, les troubles, je ne sais quel terme choisir. En tout cas, c'est une des villes où les jeunes se sont soulevés durant les premiers jours de novembre 2005.
L'idée, c'était d'y rester trois mois. Moi, je ne pouvais pas faire les trois mois tout seul. Alors, j'ai proposé qu'on se relaie, c'est-à-dire que chacun fasse une semaine, 10 jours. Et puis, on tourne comme ça et on prend la suite les uns des autres. Après, quand j'ai vu les sujets qu'il y avait à Bondy, quand j'ai vu la richesse de ce qu'on trouvait là-bas, des gens, des histoires, etc., ça ne tenait pas dans un magazine. Je veux dire, on est un magazine normal de 84 pages, on était. Il y avait trop de bons sujets, il y avait trop de gens à voir et il y avait trop de choses à faire. Je me suis dit, on va avoir peut-être 8 pages la première semaine dans le magazine, la deuxième, on aura 6 pages, la troisième, 4, 2, etc. Puis à la fin, si on reste 3 mois, on aura une page par semaine, tranquille, on ne pourra rien mettre dedans. Et ça ne vaudra pas le coup d'avoir des gens à Bondy tout le temps. Donc en fait, le blog, il est venu par trop de foisonnement, trop de richesse de sujets qui étaient devant nous. Quand j'ai regardé dans la documentation avant de partir, qu'est-ce que je pouvais lire sur Bondy ? Eh ben rien. Il y avait deux papiers du Parisien sur l'ouverture de la bibliothèque ou quelque chose comme ça, mais il n'y avait pas de documentation. Alors que quand vous partez comme reporter à Bagdad, à Kaboul, j'ai fait ça avant aussi, là il y a plein de docs, il y a plein de mecs qui sont passés avant vous, qui ont vu les mecs qu'il faut voir. Donc on dit, ah zut, le mec du New York Times, il a vu machin truc que je voulais voir, zut, c'est lui qui l'a eu. On est en concurrence avec plein de gens pour un territoire lointain, alors que sur un territoire proche comme ça, proche qui nous parle, qui comporte notre histoire, l'histoire de l'industrialisation de la France, la désindustrialisation de la France, de la colonisation et décolonisation, l'histoire de la ceinture de Paris, qui est quand même une histoire incroyablement forte, et il n'y a personne qui bosse dessus.
Et c'est ainsi qu'est né le Bondy Blog. Des journalistes suisses ont décidé d'ouvrir un bureau temporaire dans une petite ville de banlieue parisienne. Ils y ont découvert une réalité familière, mais mal connue, maltraitée, peu racontée. Le blog qu'ils ont lancé existe encore. La question qu'ils posaient à la société française est encore bien vivante, elle aussi. Quelle relation entretient ce pays avec ses quartiers populaires, avec ses cités de banlieue? Par extension, quelle place occupe ces territoires empreints de drames, de vie, d'histoire, de quotidien, de banalité, de grandeur? Quelle place occupe-t-il dans l'univers médiatique français? Quelle relation ont ses habitants avec la presse, avec les journalistes? À l'atelier, nous nous sommes posés ces questions. Nous avons tenté d'échapper au lieu commun, à l'analyse trop évidente. Nous sommes allés rencontrer des journalistes, des spécialistes, des habitants de banlieue, des citoyens, pour dresser un tableau aussi fidèle et aussi utile que possible de la relation entre les périphéries urbaines et les médias. Premier volet de notre exploration aujourd'hui avec le Bondy Blog.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous,
je passe le micro à Manon Mella qui depuis 2 mois use et réuse son pass Navigo de métro en RER, de RER en bus pour nous raconter cette histoire.
Mon histoire avec le Bondiblog commence en compagnie de Serge Michel, son cofondateur. Avant d'aller rencontrer la nouvelle équipe de ce média à part, j'ai envie d'en savoir plus sur les 3 mois que lui et ses collègues ont passé à Bondi.
On est arrivé à Bondi le 4 ou 5 novembre. Ça avait chauffé un peu, ça chauffait plus à Bondi, et on s'est pas intéressé aux émeutes. On s'est intéressé à Bondi. C'est qui les gens sont qui vivent ici, pourquoi il y a un malaise. Et on trouvait plus intéressant de parler aux profs, à l'école, aux boulangers, aux jeunes qui étaient en bas des bars, plutôt que d'aller voir des voitures brûlées. C'était pas ça le but du reportage.
60 papiers plus tard, 16 journalistes impliqués, il est temps pour les fondateurs suisses de rentrer à Lausanne. Mais ce qui devait être la fin d'une histoire n'était en fait que le début.
Quand l'Hebdo, le magazine, a décidé de mettre un terme à l'expérience, c'est-à-dire au bout des 3 mois qu'on avait dit, etc., il avait plus ou moins l'intention de fermer le truc et de s'en aller. Et j'ai dit à mon rédacteur en chef à l'époque, c'est trop dommage, on peut pas faire ça, il y a plein de gens qui lisent le blog qu'on a lancé nous. Il y a un vrai truc, on a touché quelque chose de sensible, d'intéressant, d'important pour la France. On va quand même pas fermer la porte, éteindre la lumière, au revoir tout le monde. Et puis l'Hebdo avait eu, pour cette opération, une notoriété incroyable. Le New York Times avait fait un papier là-dessus. La BBC avait envoyé une équipe pour tourner un reportage sur les Suisses qui couvraient la banlieue. Les Suisses qui couvraient la banlieue étaient devenus un sujet en soi pour la presse française. Hein. Tiens, bizarre, des Suisses couvrent la banlieue. Donc la presse française qui parfois a de la peine à couvrir la banlieue, là quand il y avait les Suisses, ça devenait un sujet intéressant pour, au lieu de traiter la banlieue directement. Donc il y avait tout ça et je lui ai dit, écoute, on peut pas fermer ce blog, au moins essayons d'inviter ici à Lausanne, on était la rédaction, je sais pas, 8-10 jeunes de Bondi. On en avait plein autour de nous quand on travaillait sur place pendant les 3 mois. Et on les forme au journalisme, on leur donne une sorte de cours express, on leur explique 2-3 trucs qu'il faut savoir, et après on leur donne le blog. Il m'a dit bon d'accord, il m'a dit ça, et on a fait venir une dizaine de Bondi blogueurs en février 2006 à Lausanne, qui était animé par Mohamed Hamidi, qui ensuite allait être le rédacteur en chef, le premier du Bondi blog version bondinoise. Et ça s'est très bien passé. On a donné des cours très élémentaires. On a fait un peu la fête. On a les jeunes étaient très surpris de la qualité du fait qu'ils étaient. Enfin, il y en a qui n'étaient pas sortis de chez eux depuis longtemps. C'est pas des gens qui voyagent beaucoup. Du coup là, ils étaient pris en charge. Il y avait un respect qui leur était témoigné, qui était normal pour nous, mais qui eux les a un peu bluffés. Et ensuite, c'est ces jeunes-là qui se sont mis au travail pour écrire eux-mêmes sur leur propre réalité. C'était ça le geste. On passait le Bondi Blog était tenu par des professionnels qui traitaient un sujet pas lointain, mais qui était quand même l'étranger pour nous, les Suisses. Et là, on passait à des gens qui écrivaient sur eux-mêmes, qui franchissaient la frontière entre le journalisme et le journalisme citoyen. Et là, c'était vraiment intéressant. Le truc, c'est que ça n'a pas marché tout seul. C'est-à-dire qu'il fallait les motiver tout le temps. Quand ils avaient une bonne idée, il fallait encore qu'ils l'écrivent derrière, et voilà. Donc, moi, peu après, j'ai quitté l'Hebdo pour d'autres raisons. Je suis beaucoup venu ici, à Bondi, et il a fallu vraiment coacher ces jeunes, les encourager, les relire, les pousser dans leur retranchement pour qu'ils aillent au bout de leurs idées et pour que ça donne quelque chose. Parce que c'est pas facile. Enfin, c'est un métier d'écrire quasiment tous les jours pour un blog.
RFI.
Depuis le 28 février 2006, date à laquelle les journalistes suisses ont laissé le projet entre de nouvelles mains, une cinquantaine de jeunes est passée par le Bondi Blog. Parmi eux, certains sont en formation ou débutent une carrière professionnelle, d'autres sont à la recherche d'un emploi. Tous ont un point en commun. Ils sont nés en banlieue ou y ont vécu, principalement en Seine-Saint-Denis. Sur leur site, les Bondi Blogueurs parlent d'emploi, de politique, d'économie, de culture. Ils réfléchissent à la marche du monde. Tout ça à travers leur regard de jeunes de banlieue. S'ils ont choisi le Bondy Blog, c'est pour faire entendre leur voix dans le grand débat national.
Depuis 10 ans, l'équipe du Bondy Blog a fait du chemin. Elle a collaboré avec Yahoo France, Télérama, Le Monde, Libération, RFI ou Radio France. Le Bondy Blog est aussi sur le petit écran. En 2011, il lance avec la chaîne parlementaire le Bondy Blog Café. Dans ce programme, les jeunes reçoivent des politiques et les interrogent. Les blogueurs du Bondy Blog se sont petit à petit imposés comme la voix des banlieues françaises.
Donc voilà, nous on attaque quand même une saison assez particulière, hein. C'est quand même la 11e saison.
Et nous sommes le samedi 5 septembre 2015, c'est le jour de rentrée pour l'équipe du Bondy Blog.
L'enjeu numéro 1, il faut déjà à mon avis se mettre d'accord sur le nom, quoi. Est-ce qu'on dit c'est les émeutes, est-ce qu'on dit c'est les révoltes, tu vois, c'est une vraie question, hein. Quand on choisit le terme émeute et quand on choisit le terme révolte, c'est pas du tout la même chose.
Je te cache pas, Nordine, que je préfère l'expression révolte urbaine.
Tu vois, donc les émeutes, ça renvoie à meute, donc ça renvoie à meute de loups, donc ça renvoie à violence, sauvage. Enfin, ça dit beaucoup de choses, quoi. Alors que révolte, c'est plutôt politique.
Le mot émeute résume pas toute la situation. Parce que voilà. Si on est sur l'émeute, on est sur les voitures qui brûlent, mais c'était pas que ça.
Depuis cette conférence de rédaction, les blogueurs du Bondy Blog ont créé un dossier intitulé 10 ans après. On y trouve notamment des entretiens avec des sociologues, des présidents de collectifs ou Yannick Blanc, qui était l'ancien directeur de police générale de Paris en poste en 2005.
Mais de toute façon, il faut que d'ici le mi-novembre, c'est-à-dire voilà, il nous faut au moins une fois par semaine un ou deux papiers en rapport avec cet événement-là. Et donc il faut décliner tout ça.
Je suis Nordine Nabili, je suis le directeur du Bondy Blog. Je suis par ailleurs professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Voilà, et je suis journaliste depuis 20-25 ans maintenant. Bondy Blog, c'est une espèce d'ovni en fait dans le paysage médiatique français. C'est quelque chose qui est une vraie histoire, quoi. C'est presque du storytelling. On est à la fois un média, mais on est aussi une école dans le sens noble du terme, c'est-à-dire plutôt un endroit où se forgent des opinions, où se créent les polémiques, où se débattent les idées. Donc d'un point de vue du statut, effectivement, on est une association, loi 1901, avec un conseil d'administration, un bureau, des salariés, enfin le truc classique. Mais en même temps, on est un bidule technique, médiatique, qui ressemble assez à l'époque, c'est-à-dire où chacun peut à un moment donné exprimer un certain nombre de choses et les publier. Donc on est un média de ce point de vue-là, mais on est aussi surtout un endroit où se rencontrent les gens et où peuvent naître un certain nombre de projets. Donc qu'est-ce que le Bondy Blog ? C'est toujours compliqué. Et en même temps, le Bondy Blog, c'est aussi un levier pour chacun en fonction du projet de chacun. Et donc ceux qui sont plutôt intéressés par l'écriture peuvent écrire, ceux qui sont intéressés par la radio peuvent faire de la radio puisque nous avons une web radio, ceux qui sont intéressés par la télé peuvent faire de la télé parce que c'est de la télé, on a une émission de télé, mais ceux qui ont juste envie de venir le mardi soir lors de la conférence de rédaction pour débattre d'un certain nombre de sujets, et notamment des sujets d'actualité, parce que il n'y a plus tellement d'endroits aujourd'hui pour débattre de tout ça d'une manière un peu presque désintéressée, le Bondy Blog sert aussi finalement de chambre d'écho. Et puis, on ne fait pas que ça, on fait aussi, voilà, c'est-à-dire quand vous mettez 50 personnes dans une aventure, il y a des liens qui se créent, il y a des gens qui se mettent à deux, à trois sur des projets particuliers, il y a même des relations qui vont beaucoup plus loin, si affinité, il y a des couples qui se sont créés au Bondy Blog, donc c'est pour ça que il faut envisager le Bondy Blog comme une aventure collective qui a quand même des convictions, on a des partis pris, il y a des propos qui sont assumés, qui sont décomplexés, mais qui, en gros, sont des éléments de réflexion dans un débat contemporain sur une catégorie de la population qui se sent, elle, pas du tout dans les médias. Et donc, c'est tout ça. C'est toute cette salade, en fait, qu'est le Bondy Blog. Mais, paradoxalement, vu de l'extérieur, le Bondy Blog a une identité assez...
Marquée.
Assez marquée, voilà. C'est-à-dire que...
Laquelle, alors ?
C'est un média en banlieue... qui traite de l'islam, des problèmes de transport, de discrimination. Donc voilà, donc on nous met comme ça dans un tiroir, dans un paysage, dans un puzzle médiatique, et nous on est une pièce. Alors quand on dit Bondy Blog, on pense forcément banlieue. Donc nous ça ne nous dérange pas, puisque le problème c'est pas tellement l'identité, le problème c'est surtout ce qu'on trouve dans nos contenus. Et donc, on assume parfaitement d'être un média qui est installé en banlieue, qui est alimenté par des jeunes qui habitent en banlieue et qui traitent de la vie quotidienne des banlieues. Mais on n'enferme pas nos jeunes uniquement sur ces questions. Rien n'interdit aux jeunes du Bondi Blog d'écrire des choses sur la géopolitique, d'écrire des choses sur ce qui se passe au Mexique. Ce sont des jeunes bien dans leur pompe et bien dans leur monde et bien dans l'actualité de leur monde. Donc, mais sur les questions liées directement à la banlieue, moi je veux et j'exige d'être les meilleurs. Parce que on a les contacts, on a les gens, on a la capacité de faire un pas de côté et de ne pas suivre la meute pour être uniquement dans la stigmatisation ou dans l'hystérie. Mais on peut être aussi capable d'avoir des gens et pour tirer un peu le débat plus vers plus d'objectivité. Donc c'est peut-être ça un peu le plus du Bondi Blog sur certaines thématiques qui sont souvent un peu soit sous-traitées ou maltraitées dans les médias classiques pour des raisons de temps, de manque d'expertise ou de contact.
Le Bondi Blog a donné naissance à des couples d'amoureux, mais aussi à des couples professionnels comme Mehdi et Badrou. En 2009, la journaliste Pascale Clark les repère sur le blog et leur propose de collaborer avec elle sur France Inter. La journaliste leur donne carte blanche et en fait rapidement ses kids.
Les kids, comme on en parle, sont mis dans la peau d'un électeur FN, Mehdi Badrou, votre fiction du lundi.
Durant 6 ans, jusqu'en juin 2015, ils animent à deux voix une chronique poétique en forme de feuilleton reportage.
Parce que ce n'est pas un dimanche comme les autres.
Parce que j'ai le sentiment de voir ma vie qui s'échappe.
Parce que je l'attendais ce jour-là, depuis le temps qu'ils en parlent sans savoir pourquoi.
Parce que j'aime les traumatismes.
Parce que la rage ne doit pas être toujours silencieuse.
Parce que je ne suis pas faible, je suis juste le pouvoir.
Parce que mon vote n'est pas une option.
Parce que je suis un impatient.
Parce que je ne suis pas un mauvais citoyen malgré mes troubles et mes démons.
Parce que je suis français.
Parce que je suis français.
Parce que c'est un devoir.
Parce que je me suis réveillé, trop décidé, trop sûr de moi.
Parce qu'il y a des éclaircies dans un ciel livide. Vide.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête?
J'ai dit bonjour, non? Je m'appelle Badrou, ou Badroudine même. J'ai 23 ans, je suis au Bondi Blog depuis 8 ans déjà. Je me suis retrouvé au Bondi Blog par l'école du blog. En fait, le Bondi Blog a eu une succession de prix Albert Londres qui sont venus raconter leur expérience, qui sont venus en quelque sorte un peu nous décomplexer en fait par rapport à l'idée d'être journaliste et de décider de partir à l'aventure. Pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que le Bondi Blog, c'est la liberté en fait. C'est une liberté qui s'est créée à la force d'un groupe de jeunes et de moins jeunes qui se sont retrouvés, qui se sont greffés ensemble pour faire que ce média existe et continue d'exister. Moi, la liberté, ça me va. Parcours personnel, le Bondi Blog, c'est le début, c'est aussi la... Voilà, c'est ce qui fait, en quelque sorte, ce que je suis aujourd'hui.
Et tu fais quoi aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je peux dire que j'ai derrière moi une expérience de 6 ans à France Inter, à la radio. C'était une expérience de reportage pour la radio, de rencontre pour l'émission de Pascale Clark lorsqu'elle était le matin de 9h à 10h au quotidien. Donc c'était une expérience de radio assez forte. Si Pascale Clark m'a appelé pour faire partie de son émission au début à France Inter avec Mehdi, c'était parce qu'on avait notre passif du Bondi Blog et notre identité Bondi Blog. Elle nous a cherché pour ça. Et quand je dis identité Bondi Blog, c'est pas pour parler de la banlieue. On n'a pas forcément cherché à parler de la banlieue. On était là parce qu'on avait une manière de voir les choses, une manière de raconter la société qui nous entoure, qui changeait un peu. Voilà.
Pause dans l'atelier, restez à l'écoute.
L'atelier des médias.
Aujourd'hui, en tant que banlieusard, il n'y a pas d'école de journalisme. Grâce au Bondy Blog, aujourd'hui, ça permet d'avoir une porte, honnêtement, pour travailler avec d'autres journalistes et des grandes maisons, comme Libération, Le Monde.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine au Bondy Blog, ce média à part créé par une équipe de journalistes suisses et maintenu depuis 10 ans par et pour des jeunes de banlieue. Le Bondy Blog est né pour couvrir les émeutes qui ont embrasé le département de Seine-Saint-Denis et Paris il y a 10 ans. Une décennie plus tard, quelle est sa place dans l'univers médiatique français? C'est pour répondre à cette question et explorer la relation entre les banlieues populaires françaises et les médias que Manon Mella a rendu visite à Nordine Nabili, directeur du Bondy Blog, et à plusieurs de ses collaborateurs. C'était lors de leur séminaire de rentrée début septembre.
Voilà, par exemple, l'histoire de Mehdi Badrou est assez extraordinaire. Ils sont arrivés, ils avaient 14 ans, au Chou, qui est aujourd'hui à TF1. Donc on peut faire ça. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas en faire un truc corporé. C'est-à-dire qu'il faut en faire un exemple que, à travers une expérience comme la nôtre, qui a posé un certain nombre de diagnostics sur la manière dont les médias travaillent sur ce territoire et tout ça, ben nous on a fait autrement et ça donne des résultats. C'est vrai, on a près de 25 jeunes qui sont passés par le Bondy Blog, qui sont aujourd'hui dans les grands médias et tout ça, mais il y a aussi eu d'autres histoires.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Quelles évolutions vous avez observées au sein du Bondy Blog en 10 ans?
On s'est institutionnalisé, on commence à vieillir, on a 10 ans, c'est pas simple, c'est-à-dire que lorsque vous lancez une idée comme le Bondy Blog en 2005, dans un contexte particulier, avec une génération qui a vécu des choses, hein, les gamins à l'époque venaient, ils avaient 20 ans, 21 ans, 22 ans, donc ils venaient de vivre quelque chose de très important, de tragique, et donc il y avait cette rage qu'il fallait canaliser, qu'il fallait... pour l'exprimer, il fallait donc leur apprendre les outils journalistiques. Et donc, il y avait cette espèce comme ça d'envie d'en découdre, quoi, de prendre sa revanche, d'écrire et d'expurger ce mal-être. Donc, avec cette génération, donc en gros, de début 2006 jusqu'à fin 2007, c'est-à-dire jusqu'après la présidentielle 2007, on était dans cette trajectoire. Après, évidemment, on a été un objet de curiosité. On a commencé à signer des partenariats importants. Nos jeunes ont commencé un peu à découvrir les salons parisiens. Voilà, ils sont jeunes, donc forcément, nous-mêmes avons certainement mis un peu d'eau dans notre vin. Et donc, peut-être qu'à partir de 2007-2008, on s'est un peu installé. Parce que c'est pas facile de garder la rage. La rage, c'est quand même, il faut de l'énergie pour être enragé en permanence.
When I step up in the place, say yo, I step correct. Got you all in check. I got that head nod shit that make you break your neck. Got you all in check. And you know we come through to wreck the discotheque. I got you all in check. Throw your hands up in the air, don't ever disrespect. I got you all in check.
Et donc forcément, vous n'êtes plus dans l'euphorie de départ, l'anarchie, si j'ose dire, mais une anarchie réfléchie. Et donc peut-être qu'il y a eu un virage en 2009-2010, les premiers sont partis, ils avaient fini leur envie de faire ce qu'ils avaient fait, des nouveaux sont arrivés, et donc très vite le Bondy Blog est apparu à ce moment-là, en 2010-2011, comme une possibilité aussi, une fenêtre d'insertion professionnelle. Et donc là, du coup, vous n'avez plus le même public, vous n'avez pas un public qui vient justement parce qu'il a envie d'en découdre, parce qu'il a envie de dire des choses, mais vous avez un public qui certes vient pour s'exprimer tout ça, mais qui a quand même malgré tout un objectif, une arrière-pensée, ce qui est tout à fait légitime. Les jeunes qui aujourd'hui veulent être journalistes ont plutôt intérêt à venir au Bondy Blog, parce que c'est une belle étape, et ils ont possibilité de, en un an, en deux ans, de se confronter à la réalité du journalisme, de rencontrer des gens, de se faire un petit réseau, de se faire voir aussi, de faire de la radio, de faire de la télévision, et donc de finalement de muscler leur CV pour pouvoir postuler, faire des concours, ou même aller directement dans les rédactions. Et donc forcément, le Bondy Blog n'a plus ce caractère un peu hors sol, un peu hors cadre, on dit ce qu'on veut, comme on veut, on n'est pas dans les normes et tout ça. Donc se battre contre la norme, c'est quelque chose de très épuisant. Donc c'est plus facile d'être dans la norme parce que c'est plus reposant.
Donc, c'était voilà. L'objectif, non
Après, il n'y a pas d'objectif. C'est-à-dire que le problème du Bondy Blog, c'est un peu work in progress, quoi. L'objectif, c'était de reprendre le blog en 2006, une initiative qui a été donc faite par des journalistes suisses, et donc de continuer à raconter les quartiers. Ce qu'on a fait relativement bien pendant 3-4 ans après, on aurait pu s'arrêter, parce qu'au bout d'un moment, voilà, c'est une belle aventure, c'est marrant, on peut s'arrêter. Donc on a poursuivi, et donc du coup, on a peut-être évolué, on est devenu une association peut-être un peu plus stable, avec des objectifs peut-être plus de soutien par rapport à des objectifs des jeunes et ainsi de suite. Et donc du coup, l'un peut-être a commencé à prendre le dessus sur la rage. Enfin, quand je dis la rage, c'est cette envie de pas avoir d'objectifs particuliers, mais juste de d'écrire et de raconter des trucs. Et en fait, ça concorde assez bien avec l'émergence aussi de Facebook et de Twitter. Et c'est vrai que les jeunes, à ce moment-là, à partir de 2010, 2011, 2012, se sont plutôt engagés dans leurs propres médias. C'est-à-dire, à partir du moment où vous créez votre profil Facebook, votre compte Twitter, vous n'êtes plus obligé de venir au Bondy Blog pour vous aller. Vous êtes devant la télé, il y a un truc qui vous prend la tête, vous tweetez, vous faites, voilà, vous mettez ça sur Facebook, vous voyez un truc drôle ou pas drôle, vous faites une photo, voilà, donc vous, chacun est devenu son propre média. À partir de 2010-2011, les jeunes qu'on avait, nous déjà, ou les jeunes de leur âge, ou de moins, avaient leurs propres outils. Donc c'est pour ça qu'on a pris, je pense, un coup de vieux. On n'est plus dans la même
dynamique.
On n'est plus dans la même dynamique. Et puis il y a aussi la difficulté de gérer un média comme celui-là, parce qu'il y a un modèle économique à trouver qu'on n'a jamais trouvé. On vit de quelques subventions et tout ça. Mais donc voilà, donc tout ça se pose. Et donc sur 10 ans, on peut dire qu'on a passé 2 ou 3 séquences. La séquence un peu presque naïve, innocente, où on a un outil, on va faire des choses, on va dire des choses et on veut changer le monde. Une séquence où on était un peu prise de conscience, c'est-à-dire, voilà, on commence à devenir des jeunes adultes, même si on a que 10 ans. Et là, on est vraiment dans une espèce de vrai questionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a évidemment cette nouvelle saison, qui est c'est notre 11e saison, il y a les commémorations, il y a un certain nombre de choses qui vont se passer sur toute l'année, donc on a un vrai programme. L'année prochaine, on a les présidentielles, donc on sait que les 2 ans à venir de Bondy Blog, d'un point de vue de l'édito, d'un point de vue de l'engagement, on a des biscuits, comme on dit, donc on a des choses à faire. Mais en tous les cas, il se passera quelque chose d'important dans l'histoire du Bondy Blog à la fin de la saison prochaine, c'est-à-dire en mai-juin 2017.
Bonjour, je m'appelle Bala Fofana, je viens d'Épinay, sur Seine. Je suis au Bondy Blog depuis 2 ans maintenant. En fait, moi, le Bondy Blog, j'y atterris grâce à Jamel Hamidi, en fait, quand j'étais en stage à la Fondation France Télévisions. Je m'occupais des bourses de la Fondation, en fait, pour faire assez rapidement. Les bourses, c'est un petit dispositif qui permet à des jeunes qui s'intéressent au journalisme de venir faire un reportage télé d'une trente. Moi, j'organisais le jury et Jamel était un des membres du jury. Et c'était mon dernier jour de stage à la Fondation, parce que je préparais un master en communication politique et publique. Et la Fondation voulait me prolonger de 6 mois. Ma fac a refusé. Et donc, du coup, c'était mon dernier jour de stage et ça allait être mon premier jour de chômage. Du coup, Jamel m'a demandé si j'aimais bien écrire, etc. Comment je me sentais pour écrire. Je lui ai dit que moi, j'écrivais des trucs, mais c'était jamais sorti de ma chambre. Et il m'a dit, c'est assez emmerdant parce que le problème avec les gens qui écrivent dans leur chambre, c'est qu'ils sont jamais lus et ils savent, et ils ont jamais de retour et ils savent jamais ce qu'ils valent vraiment, tu vois. Et il m'a dit, bah, tu peux venir au Bondy Blog. Je lui ai dit, ouais, ok, on verra, pas de souci. Il m'a dit, non, mais par contre, si tu peux venir, c'est aujourd'hui, mardi, donc il y a une conf de rédac. Donc je me suis retrouvé un peu piégé, vu que j'avais dit oui. Et de là, j'ai fait un premier article sur le travail sur le dimanche, et après j'en ai fait un sur la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen. Et aujourd'hui, j'ai dû écrire peut-être 50 d'articles et faire un peu moins d'une 10 de plateaux télé.
Alors tu dis que t'as été piégé, mais t'as quand même voulu y aller au Bondy Blog à la base.
J'ai voulu y aller, mais c'est vrai que je me suis dit, waouh, moi je les voyais de loin, de l'extérieur.
C'est arrivé vite, quoi.
Je me suis dit, ouais, je les voyais de l'extérieur, je me disais, ouais, c'est un truc de malade et tout, faut peut-être que je me prépare psychologiquement. Mais quand je dis piégé, c'est que je pensais qu'il allait me dire, tu viens à une réunion et que j'allais avoir le temps de réfléchir, etc., de voir comment je me positionne et qu'est-ce que j'ai raconté pour paraître ridicule. Mais rencontrer le mec et venir le jour même, c'est vrai que je ne m'attendais pas, ça allait super vite, quoi.
Pourquoi tu es au Bondy Blog aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'y suis parce qu'en fait, c'est clairement un moyen d'expression qui est super important. J'étais en bas de mon quartier, je parlais avec des mecs et on se disait, waouh, ce qu'on raconte, ça peut être un film, ça peut être un article, etc. Mais sauf que ça restait des discussions qui mouraient en même temps que le mégot de Bédo qu'on jetait par terre, en fait. Et au Bondi Blog, c'est un moyen de continuer, d'apporter et de faire vivre ça autrement. Après, j'ai écrit sur vraiment beaucoup de sujets, en fait. Par exemple, j'ai beaucoup couvert les élections municipales européennes, et vu que je sortais d'un master en communication politique, c'était intéressant pour ça. Après, voilà, j'ai écrit aussi des articles sur la vie en banlieue, par exemple, comment des gens font passer des trucs à des détenus qui sont en prison, etc., ou l'importance du blaze, le surnom en banlieue, etc., ou même des choses aussi plus personnelles, mon expérience de vigile, comment on vit le fait d'être un Fofana en France après l'épisode de Youssouf Fofana, etc. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un mélange de toutes mes influences. Je peux écrire sur le sport parce que j'aime ça, je vais écrire sur la politique. Des fois, je peux raconter des moments de vie, comme un bus 154 en Seine-Saint-Denis qui a disparu, et raconter l'ambiance du bus, des discussions que j'ai entendues, etc. Donc c'est plutôt ouvert à tout, en fait. Il n'y a pas besoin d'être un expert, c'est juste raconter de l'humain, en fait.
Et qu'est-ce que ça t'apporte d'écrire pour le Bondi Blog ?
Bah, personnellement, ce que ça m'apporte, c'est que j'ai arrêté d'écrire pour moi, et que, en fait, tu te rends compte que t'es pas seul au monde, c'est que ce que t'écris, d'autres gens l'ont vécu et n'ont pas pu l'écrire. Et toi, t'as cette facilité avec l'écriture, donc t'en profites. Après, professionnellement, oui, aujourd'hui, je suis à TF1 parce que je suis passé par le Bondi Blog. J'ai eu 7-6 articles sur Le Monde et j'en ai écrit un dernier dans Le Monde d'Afrique parce que j'ai été au Bondi Blog. Humainement, ça m'apporte beaucoup, mais j'ai aussi appris énormément et je continue à apprendre énormément.
Tu fais quoi à TF1?
À TF1, je suis journaliste rédacteur pour les JT de 20h et 13h, du coup.
Et justement, alors, qu'est-ce que tu penses des médias traditionnels?
Bah, c'est que les médias traditionnels savent qu'ils sont traditionnels et sont conscients de leur force de frappe. Mais aujourd'hui, avec les circuits qu'ils ont pris, ils n'ont justement pas assez balisés. Il y a des endroits où ils n'arrivent pas à avoir accès.
Et bah, comment est-ce qu'on traite l'info qui vient des banlieues à TF1, par exemple?
Les gens ont des idées de sujets qu'ils aimeraient faire, ils savent juste pas comment s'y prendre.
Par exemple?
Bah, par exemple, parce que ils ont aucune connaissance. Et en fait, si tu veux, il y a un fait, c'est que les gens fonctionnent par rapport à leur réseau. Aller se faire un réseau dans la police, chez les hommes politiques, etc., c'est plus facile qu'aller se faire un réseau en banlieue, parce que ça demande déjà d'y aller. Et ceux qui construisent les discours médiatiques peuvent aussi être eux-mêmes prisonniers de leur représentation et avoir du mal à aller en banlieue. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'envie, d'idée et de timidité aussi.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi justement la concurrence qui joue là-dedans et qui pousserait peut-être aussi les journalistes à opter pour la facilité, c'est-à-dire à souvent appeler les sources qu'ils connaissent et ne pas aller chercher plus loin, en fait, finalement?
Bah, après, il y a de ça, mais il y a aussi le temps, en fait. C'est que bizarrement, c'est dans les années 2000 que les gens se disent faut parler de banlieue autrement. Et c'est dans les années 2000, avec BFM, etc., que économiquement, les médias sont en train de plonger et sont gérés par des gestionnaires, et que maintenant, on a moins le temps de faire de l'information. À l'époque, quand tu partais à un déplacement à l'étranger, tu restais 2 semaines pour faire un reportage. Aujourd'hui, quand tu pars, tu fais 1 semaine et tu dois faire 3 reportages. Tu dois tout rentabiliser. Et pour se faire un réseau, faut y aller, y rester longtemps et revenir sans rien. Ce qui est aussi compliqué quand tu sais que la rédaction est à flux tendu et que la population, le nombre de journalistes, il baisse quand même. Et ça aussi, ça interroge le réseau. C'est que, bah, du coup, tu passes que par des associations et même l'asso te montrera que ce qu'elle voudra te montrer. Et t'auras pas eu le temps d'aller voir des êtres humains, en fait. Et là, la difficulté aussi.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Mais ce qui est terrible à dire et à constater, c'est que le traitement, il a pas tellement changé. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a les gros médias, c'est-à-dire les médias de télé, qui cherchent toujours à faire dans le spectaculaire, dans la manière d'aborder, de traiter ce qui se passe en banlieue. Alors que je pense qu'on aura avancé dans notre manière d'aborder les banlieues dans les médias le jour où on considérera qu'on ne parle pas d'un territoire à part ou d'une problématique à part. C'est-à-dire que les problèmes qui existent dans les banlieues, ce sont des problèmes qui touchent et qui touchent d'abord en premier lieu la société française. Si on regarde comme ça, avec un plan d'ensemble comme ça, les banlieues, c'est très banal en fait ce qui s'y passe. Ce qui s'y passe est beaucoup moins spectaculaire qu'on le croit. Ce qui s'y passe, c'est un mec qui tous les jours va promener son chien à 16h et à 23h s'il fait pas trop froid le soir. C'est pas. Mais les médias, eux, ce qu'ils cherchent à raconter de la banlieue, c'est l'islam, la drogue, la rage, la jeunesse mal élevée, pas politisée, complètement inconsciente. Enfin, on a un traitement très réac en fait de la banlieue, alors qu'on est une société qui a pas mal avancé aujourd'hui. Enfin, c'est très bizarre.
Qu'est-ce que je faisais ? Intéressant.
T'avais quel âge, toi ?
J'avais 18.
Voilà. Et tu as brûlé des voitures, alors ? Non, je te pose la question, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a un journaliste hollandais qui a appelé Mohamed Hamidi, il a fait « Ouais, je fais un reportage sur les émeutes. » Moi, je fais « Oui. » Et vous avez brûlé des voitures, Mohamed ? Mohamed Hamidi, agrégé d'économie.
Parce que c'est ça. Parce que...
Il a dit comme ça.
C'est le casting, des fois on est des fois une agence de casting.
Mais c'est vrai que lancer un truc où tous les blogueurs parlent de ce qu'ils faisaient pendant les émeutes, c'est et bien. Les bruits souffrants qu'ils en ont, ça lance facilement une série et ça demande des papiers courts que tout le monde peut faire assez rapidement.
C'est vrai. Et en plus, et ça a marqué toute une génération. Ouais. C'est très très important. C'est-à-dire que ce qu'il faut que la société française comprenne, c'est que ces événements-là, ces émeutes, ces révoltes, voilà, ont été
que la série soit cohérente.
Oui.
Ah, j'ai dit émeute.
Non mais c'est pour
voilà, mais faut qu'on décide à la relecture. On doit pas laisser passer un seul papier.
Non, mais non, parce que tu veux, tu sais, quand tu signes au Bondi Blog, tu signes d'abord ton nom, quoi, tu vois. Donc, les mots sont importants, mais le diagnostic et la réflexion sur la situation me semble encore plus importante, parce que la question de la légitimité est réelle. C'est-à-dire que, est-ce qu'on parle de la France quand on parle des banlieues, ou est-ce qu'on parle d'un territoire étranger, par exemple?
Moi, je considère que les médias traitent la banlieue sous deux mots-clés, la justice et la police. Et lorsque vous n'avez que cela comme interlocuteur, forcément, les gens vous donnent le champ d'activité qui est le leur, c'est-à-dire la police et la justice, c'est-à-dire donc les faits de délinquance, les prisons, enfin voilà, donc quelque chose qui est complètement négatif. Et pour une raison très simple, c'est que la banlieue, pendant très longtemps, a été une espèce de point mort dans le traitement médiatique, c'est-à-dire que ça n'existait pas. Tout au plus, on avait un discours institutionnel. Lorsqu'on voulait faire quelque chose sur la banlieue, on allait voir le ministre de la Ville, on allait voir le préfet de la Seine-Saint-Denis, on allait voir... telle maire d'une ville importante et ainsi de suite. Et donc la société civile et tout ça n'était pas forcément sollicité. L'autre point, c'est que dans la formation même des journalistes, c'est pas quelque chose qui est important. C'est-à-dire que la politique de la ville n'existe pas, par exemple, dans les cours académiques, dans les grandes écoles de journalisme. Lorsque vous êtes un journaliste et que vous parlez, par exemple, de la SNCF ou de Coca-Cola, vous savez que si vos informations sont fausses, si vous dites quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, en tous les cas qui peut altérer l'image de telle société ou d'une personnalité, vous savez pertinemment que vous aurez des comptes à rendre parce que ces personnes-là ont les moyens de vous suivre, enfin de vous poursuivre, de rétablir la vérité, en tout cas de débattre avec vous, ce qui n'est pas le cas avec les banlieues. Vous voyez, c'est juste pour vous dire que donc tout ça est en train de changer parce que, pourquoi ? Parce que les gens aussi réagissent. Quand un média fait quelque chose qui est complètement hors circuit, qui ne respecte pas la déontologie, on est capable en 2-3 heures sur Twitter, sur Facebook, de le dénoncer, donc de les mettre devant leur responsabilité. Donc ça change. Mais c'est un changement, si vous voulez, qui est contraint parce qu'il commence à y avoir une pression. Or, dans les médias, il n'y a pas eu cette auto-prise de conscience qui consiste à dire, mais ce sont des territoires où il y a des choses à aller faire, où il y a de l'information à aller chercher, où c'est des pratiques qui doivent évoluer. Et moi, le pari que je fais, c'est qu'elles n'évolueront pas tant que la composition des rédactions, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il faut aussi se poser la question de qui aujourd'hui devient journaliste, de qui aujourd'hui dirige ces rédactions-là, et ainsi de suite. Et donc, c'est à la fois la sociologie de la profession qui doit évoluer, non pas pour avoir que des gamins qui viennent des quartiers parce qu'ils vont faire les quartiers, mais il faut que cette profession, si elle veut lire, écrire, décrire, filmer la société dans laquelle elle est, il faut aussi qu'en son sein, il y ait des gens qui viennent de toutes les sphères, parce que le débat se fait d'abord dans la rédaction. Donc il faut juste se dire, tiens, cette question de la banlieue, elle n'est plus aussi périphérique que ça, elle devient importante, et donc il faut organiser la rédaction pour qu'on ait aussi 3-4 journalistes capable de travailler sur ces sujets-là tranquillement, d'une manière pérenne, de créer des archives, de créer le réseau nécessaire pour que demain, traiter les quartiers, c'est la même chose que traiter le chômage, c'est la même chose que traiter les problématiques rurales, c'est la même chose que traiter la géopolitique. Donc voilà, donc c'est comment on inscrit la banlieue comme un sujet important, parce que ça concerne quand même près de 10 millions de personnes. C'est quand même là où il se passe un certain nombre de choses. Une grande partie de la jeunesse de ce pays est là-dedans. Donc tout ça, c'est important. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit en 2010 que les médias ont un retard phénoménal sur cette question.
Moi, humain, papou, primaire et papou, si évoluer, c'est ça. Moi, j'évolue pas pour un sou. Moi, parler de glacier, si couler, moi, fâché. Je saurai où te chercher quand, comme moi, tu seras perché. Mais oui, oui, retiens-moi bien. Persigne tout comme les tiens. Le même trou qu'à la couche d'ozone, je te le ferai. Allez, tu peignes mes vols, vol, voyage. Fais-les tes reportages, mes potes collent. Crache loin dans votre bol de potage, dans votre monde de Gotha. Moi, je n'en voulais pas. Évidemment que tu crois, mais on se tait quand on ne sait pas. Ta bouche, Robetta, écoute, la nature est là. Ne vous étonnez pas, ça pue, pue le coup d'état.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Pour moi, il n'y a pas de journalisme positif ou négatif. Et la banlieue ne doit pas être traitée d'une manière positive ou négative. D'ailleurs, si on la traite d'une manière positive, c'est une insulte. Et si on la traite d'une manière négative, c'est une insulte aussi. Voilà, donc dans les deux cas, c'est une insulte. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est traiter la banlieue avec les outils qui sont les nôtres. L'objectivité, voilà, la rigueur, la constance, l'honnêteté. Donc c'est ça que l'on doit avoir à l'esprit quand on est journaliste, quel que soit l'endroit où on va travailler. Alors certes, en banlieue, c'est compliqué, ainsi de suite. Mais c'est compliqué, pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, la banlieue a été maltraitée, martyrisée. Donc il y a une vraie défiance de la population, notamment vis-à-vis de la télévision. Parce que la télévision a déformé un certain nombre de choses. Il y a eu des pratiques condamnables par des équipes de journalistes. Pas seulement, parce qu'en même temps, pour les gens, dès que vous voyez une caméra, on dit c'est la télévision, mais ça peut être le documentaire, ça, on ne sait pas. Donc c'est juste qu'il y a une méconnaissance entre les deux entités, la banlieue et les journalistes, ainsi de suite. Le deuxième point, c'est que dès que vous faites un reportage et que vous considérez que la parole est un peu différente, qu'on montre quelque chose qui marche, et ainsi de suite, on vous dit, mais vous faites de l'angélisme. Mais un reportage n'est pas une étude sociologique. C'est un traitement d'un fait d'actualité qui est une dimension d'une réalité qui est souvent une réalité complexe. Et on appelle ça les angles. Je pense que le meilleur service que l'on doit rendre à la banlieue, c'est de traiter la banlieue comme on traite tous les sujets. Point à la ligne. Honnêtement, moi, quand je regarde la télévision, par exemple, j'attends pas qu'on me montre des images positives de la banlieue, parce que la banlieue, c'est pas un nid d'ange, mais c'est pas un nid de terroristes non plus, quoi. Voilà, donc c'est montrer la vie ordinaire et laisser parler les gens, laisser-les s'exprimer, donner leur avis, comme on laisse d'autres personnes s'exprimer sur ce qu'ils vivent. Mais il faut aussi arrêter de parler à la place des gens. Et la télévision parle beaucoup à la place des gens des banlieues, au lieu de leur laisser la parole.
Mais parce que de base aussi, l'homme est paresseux, va au plus simple, c'est qu'on a décidé de traiter la banlieue comme on traite la guerre. On va avec un fixeur et le fixeur nous amène un point B. Il y a encore des journalistes qui ont 20, 30 ans d'expérience et qui, grâce aux contacts qu'ils ont dans la police, quand ils vont en banlieue, ils se font escorter et le JRI va faire son travelling dans une voiture. Ça existe encore et non en 2015. Parce que juste à ce mec-là, faudrait juste lui expliquer que quand tu vas en banlieue, comme c'est des populations qui sont stigmatisées et méfiantes, faut déjà poser ta caméra et discuter et rassurer. Et après, de là, on t'aidera à faire le sujet, etc. Et tu pourras avoir des gens et tu auras un vrai échange. Et quand on va en école et qu'on t'apprend à faire un micro-trotte, c'est non. Tu filmes déjà et tu poses les questions, comme ça la personne est prise dedans. Et c'est ce qu'on enseigne encore en école de journalisme. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de formation. Et donc comme il n'y a pas de formation et qu'on dit que c'est un territoire très dangereux, on y applique des méthodes de journalisme de guerre. Un fixeur qui t'emmène à un point B, qui assure ta sécurité, et tu repars. Et dans ta narration, t'emploies le vocabulaire et le champ lexical du reportage de guerre.
Qu'est-ce que tu attends, toi, des médias ?
J'attends rien des médias. En fait, la position attentiste, pour moi, c'est suicidaire. tu fais ton truc et basta. Et si les médias me branchent pas, je passerai à autre chose. Mais je suis plutôt dans une dynamique de faire des choses que d'attendre. Parce qu'on peut attendre longtemps. Et si j'attends un changement radical des médias, c'est comme si je mettais une doudoune sur moi au mois de juillet parce que j'attends la neige en juillet. Ce serait pareil.
Je pense que la presse française est souvent très bonne, qu'elle a des très grandes qualités de toutes sortes, sur toutes sortes de sujets, que ce soit l'économie, la politique internationale, voilà. Sur la banlieue, je pense que la presse française ne fait pas ce qu'elle devrait faire, ne fait pas une couverture à la hauteur du sujet. Le Bondy Blog, il est important pour ça, c'était important d'avoir ce contrepoint.
C'était l'émission numéro 398 de l'atelier des médias. J'ai plusieurs annonces à vous faire pour conclure. Ce dimanche, Yasmine Chouaki reçoit Nordine Nabili, qu'on a entendu dans le reportage, pour son émission en sol majeur. Ce mardi, RFI se délocalise à Bondy, la matinale d'Arnaud Pontus, 7 milliards de voisins, Radio Foot International, Mardi Politique et la bande passante seront en direct du Bondy Blog. Concernant le groupe France Média Monde auquel appartient RFI, sachez que France 24 a lancé en mai dernier le site Pas de Quartier qui diffuse des vidéos, des articles, des sons réalisés par des habitants de banlieues françaises. Manon Mella s'est entretenue avec Ségolène Malter et Wassim Nasr qui portent ce projet pour France 24. Vous pouvez les entendre sur l'atelier des médias. La semaine prochaine, nous continuons notre exploration de la relation entre médias et banlieues grâce à Manon Mella et à toute l'équipe, Mélissa Barra, Simon Decreuse, Dilette Sadaoui et Ziad Malouf. Salut à toutes et à tous.